Serge Brussolo, l'homme de la banquise. Si l'on vous dit qu'on a vu des oiseaux attroupés voler par bandes sans s'arrêter, soyez en défiance. On vient vous espionner ou vous tendre des pièges. Mais si, outre les oiseaux, on voit encore un grand nombre de quadrupèdes courir la campagne, comme s'ils n'avaient point de gîte, c'est une marque que les ennemis sont aux aguets. Sun Tzu, l'art de la guerre. Chapitre 1. Le cadavre est là-haut, murmura la jeune femme, ébauchant un geste vague en direction de la montagne. Par temps clair, il arrive qu'on puisse l'apercevoir au télescope. C'est du moins ce que prétendent les gens d'ici. En ce qui me concerne, je n'y crois guère. Elle portait une tenue de ski à la dernière mode new-yorkaise. Noire, taillée dans une matière qui tenait le milieu entre la peau de requin et l'épiderme d'extraterrestre. Elle s'était présentée sous le nom de Nora Farbrooks, associée dans un gros cabinet d'avocats. Elle roulait en Jaguar de collection. Peggy Mitchum fit quelques pas hors du chalet. La neige craqua sous ses semelles. Il faisait si froid que les cristaux étaient déjà en train de se solidifier. De la besace qui lui battait la hanche, elle tira un gros téléobjectif de 300 mm. Le problème avec une telle optique, c'est que l'angle de vision se réduit à 5 ou 6 degrés. Il convient donc de viser avec précision si l'on ne veut pas passer à côté de la cible. Il me faudrait des coordonnées précises, lâcha-t-elle sans se retourner. Nous les avons, répondit Nora, les yeux dissimulés par d'énormes lunettes solaires à verre réfléchissant. Pharaon Camporteur était équipé d'une balise de signalisation. Jusqu'à ce que sa batterie s'épuise, l'appareil n'a cessé de transmettre la position du corps. L'altitude aussi ? Oui, c'était un gadget assez complet pour l'époque. Afin de se donner une contenance, Peggy porta le téléobjectif à son œil droit. C'était stupide, bien sûr. À moins d'un coup de chance, il était impossible de localiser la dépouille de l'alpiniste depuis l'endroit où elle se tenait. « Résumons-nous, soupira-t-elle. Il y a 12 ans, Pharaon Carpenter, riche homme d'affaires passionné d'alpinisme, a trouvé la mort en tentant d'escalader le versant nord de cette montagne. On n'a jamais récupéré son corps. Sa mort n'étant pas officiellement constatée, ses héritiers n'ont pas pu entrer en possession de sa fortune. C'est ça ?»« Oui, » fit Nora Farbrooks avec une lassitude non dissimulée. Selon les lois en vigueur dans l'État où a été enregistré le testament, tant que les services du coroner n'auront pu autopsier son corps, Pharaon Carpenter restera légalement vivant. Ses affaires sont gérées par un directoire de crise, les bénéfices réinvestis. Les héritiers que je représente n'ont pas le droit de toucher à un cent du pactole. Voilà pourquoi il est capital de mettre un terme à cet état de choses en récupérant le cadavre. Peggy rangea la lunette d'observation dans sa besace. La montagne les dominait, écrasante. Falling Rocks, une réputation exécrable. Une paroi abrupte ayant tendance à se couvrir de verglas dès que le temps virait à l'humidité. La roche noire, très lisse, avait quelque chose de repoussant. Il en émanait une menace inexplicable. Peggy pivota sur ses talons pour dévisager l'avocate. « Bon, ça suffit, » siffla-t-elle. « Je ne suis pas complètement idiote. Pourquoi moi ? Vous savez bien que je n'ai rien d'une grimpeuse professionnelle. Je me débrouille bien, c'est tout. Si cette récupération est à ce point importante, pourquoi ne pas faire appel à un pro de l'escalade ?» Nora Farbrooks ôta ses lunettes noires. Elle paraissait excédée. Son joli nez, récemment refait, virait au rouge, trahissant l'emplacement des greffes. Ça n'avait rien de séduisant. « Ok, » fit-elle. « Vous voulez la vérité vraie ? Vous êtes notre ultime recours. On a contacté des dizaines de grimpeurs avant vous. Beaucoup ont accepté. Ils ont tenté la course, mais aucun n'est revenu. Vous pigez ? Ils y ont tous laissé leur peau. C'est aussi simple que ça. » Peggy fronça les sourcils. Elle dut s'avouer qu'elle ne s'attendait pas à un langage aussi direct. « Tous ?» insista-t-elle. « Oui, ou presque. Ceux qui ont survécu sont aujourd'hui dans un état pitoyable. Paralysie, amputations diverses. Pas un seul d'entre eux n'a pu atteindre le corps de Carpenter. » Ces accidents en cascade ont donné naissance à une légende. On a commencé à murmurer que la montagne était maudite, que c'était le fantôme de Carpenter qui précipitait les grimpeurs dans le vide. Des conneries, merde. Vous connaissez le milieu des sportifs, il n'y a pas plus superstitieux. À partir de là, il est devenu impossible de recruter un professionnel. La légende s'était répandue, la montagne hantée, le mort qui refuse d'être dérangé. Que sais-je ? Des foutaises. Certains survivants se sont rappelés avoir entendu des menaces proférées par le vent. Les journalistes ont amplifié ces fariboles. Vous imaginez le reste. D'accord, admit Peggy. Mais pourquoi moi ? Je ne suis pas une célébrité de l'escalade. Je n'ai vaincu aucun sommet prestigieux. Nous sommes au courant, coupa Nora. Mais nous savons également que vous avez effectué avec succès,
pour le compte de particuliers,
des récupérations un peu spéciales. Votre nom circule dans certains milieux. On vous décrit comme une aventurière chevronnée. Vous êtes allée en Alaska, au pôle Nord. Vous avez une bonne expérience des basses températures. Oui, mais je suis avant tout plongeuse de profession, pas alpiniste. C'est un gros contrat, coupa l'avocate. Dangereux, mais lucratif. Si vous ramenez le corps, vous toucherez un bonus appréciable. À présent, est-ce qu'on pourrait rentrer ? On gèle ici. Les deux femmes regagnèrent le chalet. Un refuge de haute altitude, rarement utilisé en raison de la mauvaise réputation de la montagne. La station avait commencé à péricliter dans les années 60, après qu'une grosse avalanche ait avalé 500 touristes la nuit de Noël. Ce sont là des choses qui font piètre effet dans les catalogues des agences de voyage. Beaucoup d'enfants parmi les victimes. La coulée de neige avait balayé le village, les boutiques et les installations hôtelières. Aujourd'hui encore, on n'avait pas réussi à récupérer tous les corps. Il n'était pas rare de voir dans la vallée des équipes de piocheurs rétribués par les familles des défunts, occupés à creuser de longs tunnels dans la couche de neige durcie. Oui, Falling Rocks était un sale coin. Un de ces lieux hantés par le passé, où l'on n'a guère envie de s'attarder pour la nuit. La plupart des pistes de ski avaient été interdites en raison de l'instabilité de la couche neigeuse qu'une simple bourrasque suffisait à décrocher. Peggy ferma la porte du chalet et s'agenouillant devant la cheminée, entreprit de ranimer le feu. Derrière elle, Nora Fairbrooks claquait des dents. Peggy se redressa et déboucha la thermos de thé brûlant additionné de rhum. Elle remplit deux gobelets et reporta son attention sur les cartes étalées sur la table. « Je vous ai apporté les notes rassemblées par les précédents grimpeurs, » expliqua l'avocate. « Toutes leurs observations. » Le danger vient principalement du froid et de la glace. En haute altitude, le rocher verglacé devient aussi lisse qu'un morceau de verre. À certains endroits, la glace est pourrie et refuse de retenir le moindre crampon. À d'autres, elle devient si dure qu'on n'arrive pas à l'entailler. Si l'on perd prise, on se transforme en bosselet humain et l'on dévale des centaines de mètres sans pouvoir se raccrocher à rien. À ce petit jeu, on finit écorché vif. C'est arrivé à trois de vos prédécesseurs. Leurs anoraks sont partis en lambeaux sous l'effet du frottement, puis ça a été le tour de leur épiderme, puis de leurs muscles. Quand on les a récupérés, leurs os avaient été décapés. « Vous essayez de m'effrayer, ricana Peggy. Vous tenez vraiment à ce que je dise non ? Je ne veux rien vous dissimuler des difficultés qui vous attendent. C'est un sale boulot. Si vous l'acceptez, je souhaite que ce soit en connaissance de cause. J'ai beau être avocate, il m'arrive d'avoir des remords. Je ne suis pas glaciériste, mais je connais les dangers de ce genre d'escalade. Quand on se met à glisser, on a l'impression d'être une fusée sur sa lampe de lancement. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'arriver à planter son piolet dans la paroi et de s'y cramponner. Mais parfois, la secousse est telle que l'outil vous est arraché des mains. À partir de là, vous êtes foutu. Pendant une dizaine de secondes, les deux femmes s'observèrent en silence. Peggy se laissa tomber sur une chaise et entreprit d'examiner les photos du dossier. On y voyait Carpenter au pied de la montagne, le jour du départ. Un homme fortement charpenté, aux cheveux gris, solide et charmeur, le mâle conquérant selon l'idée que s'en font les médias.
Il aimait les courses en solitaire, soupira Nora, au mépris de toute prudence. C'était un fonceur. Dans son travail, ça lui a permis d'amasser une fortune considérable. Ce jour-là, il a commis une erreur. D'après son dernier message, il a pris du retard sur le programme à cause de la neige. La nuit l'a surpris après 12 heures d'escalade. Il était épuisé. Il a décidé de camper à flanc de paroi, en bivouac suspendu. Vous connaissez le système. On dort dans un hamac accroché à deux pitons, en se balançant au-dessus du vide. Un truc de dingue. Le lendemain, il a cessé d'émettre. On n'a plus jamais entendu parler de lui. On suppose qu'il a été victime du froid. Cette nuit-là, le thermomètre s'est effondré en altitude. On estime que là où il se trouvait, il a fait moins 30. « Selon vous, murmura Peggy, il est toujours là-haut, accroché à la paroi, dans la même position qu'il y a 10 ans ?»« Probablement. Aucune des expéditions de secours n'a réussi à atteindre l'endroit du bivouac. Elles ont toutes dû rebrousser chemin avant à cause du mauvais temps. Pareil pour les hélicoptères. Là-haut, les vents sont trop violents. Les tourbillons déséquilibrent les appareils. Et puis il y a le brouillard. Un brouillard permanent qui enveloppe le sommet en toute saison. Une crasse si épaisse qu'on n'y voit pas au-delà de 3 mètres. Il faut réellement être cinglé pour escalader une telle paroi. Mais Carpenter, d'une certaine manière, était cinglé. Tous les grands brasseurs d'affaires le sont. Son ego était aussi volumineux que cette foutue montagne. Peut-être également était-il trop vieux pour un tel exploit, mais il ne voulait pas l'admettre. Une enveloppe plus épaisse que les autres contenait des cassettes audio. Peggy devina qu'il s'agissait de l'enregistrement des vacations radio de Carpenter. « Vous les écouterez ce soir », souffla l'avocate. Il utilisait un petit émetteur-récepteur portatif très puissant. La batterie avait une autonomie de 60 heures. Suffisant, croyait-on alors, pour couvrir la course aller et retour. De toute évidence, il n'a pas vu venir la fin. La mort l'a eu par surprise, soit il a dévissé et est tombé au fond d'une crevasse, soit il a gelé dans son foutu hamac. Je penche pour cette dernière hypothèse. Pourquoi ? Il était équipé d'une balise de détresse, dont la batterie se rechargeait au moyen d'un minuscule panneau solaire. Il arrive encore aujourd'hui que cette balise émette soudain des signaux, comme si elle se réveillait brusquement. Les spécialistes estiment que cela se produit quand un rayon de soleil l'effleure. Pour cela, il faut nécessairement que Carpenter soit suspendu à l'extérieur et non enfoui au fond d'une crevasse. Logique, non ? Logique. S'il fait beau pendant votre ascension, vous aurez peut-être la chance de capter ce signal. Cela vous permettra de vérifier que le corps de Carpenter se trouve toujours à la même place. Peggy rangea les photographies en tas compact, comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes. Elle se sentait de plus en plus nerveuse. Cette histoire ne lui disait rien qui vaille, mais elle avait besoin d'argent. Ses réserves financières s'épuisaient. Au train où allaient les choses, elle serait bientôt réduite à la mendicité. « Je suis désormais trop vieille pour danser à poil dans un bar », songea-t-elle avec amertume. « Aucun type ne daignerait glisser ses dollars dans ma petite culotte. » « Si je parviens à mettre la main sur la dépouille, » demanda-t-elle, « quelle sera la procédure ?» Nora Farbrooks baissa les yeux, gênée. « Si la chose est envisageable, essayez de ramener le corps entier, » répondit-elle. « Dans le cas contraire, il vous faudra prélever un « morceau » prouvant de manière irréfutable que Carpenter est bien mort. Une main, par exemple, ne suffirait pas. Les juristes auraient beau jeu de prétendre qu'il s'agit d'un membre amputé et que Carpenter a pu survivre à cette amputation. Non. À défaut, s'il vous est impossible de véhiculer la totalité de la dépouille, prélevez la tête. Oui, la tête. Ce sera parfait. Peggy réprima un frisson. Après avoir réfléchi une minute, elle lâcha. « Je vais étudier le dossier cette nuit. Je vous donnerai ma réponse demain matin. » « Ok, » soupira Nora. « Si on redescendait à l'hôtel maintenant, je ne comprends pas comment vous pouvez supporter une telle température sans claquer des dents. » Elles n'échangèrent que peu de paroles durant le voyage de retour. Les difficultés de la route justifient en partie ce mutisme. En dépit de son équipement spécial, la voiture patinait dangereusement dans les virages. Cramponnée au volant, Peggy s'interrogeait sur sa condition physique. Certes, elle était une plongeuse émérite, nantie d'une capacité pulmonaire hors du commun. Mais sa musculature était-elle adaptée aux courses en altitude? Avait-elle l'instinct de la roche? Le sens de l'équilibre? L'un de ses amants l'avait initiée à la dure loi de l'escalade, et elle avait pu constater qu'elle était en mesure de triompher d'une paroi de type 5. Mais était-ce suffisant? Elle avait beau être une athlète accomplie, elle s'engageait cette fois dans un domaine où ses connaissances relevaient malgré tout de l'amateurisme éclairé. « Ai-je le choix ?» se dit-elle. « Une autre occasion de gagner autant d'argent se présentera-t-elle avant que je finisse à la rue ?»« Je ne suis pas superstitieuse, » se répétait-elle. « Je ne crois pas aux fantômes. Les malédictions soufflées par le vent des hauteurs ne me font ni chaud ni froid. » Oui, c'était peut-être là qu'elle se différenciait des autres grimpeurs, trop perméables aux légendes ayant cours dans la vallée. Les deux femmes se séparèrent dès leur arrivée à l'hôtel, ne tenant nullement à dîner ensemble. Peggy se fit monter un plateau dans sa chambre. C'était une pension désuète aux cloisons de sapin. Des têtes d'orignal taxidermisées vous guettaient au détour des couloirs. Au centre du hall, trônait l'inévitable grizzly empaillé dont la fourrure s'en allait touffe après touffe au fil des courants d'air. Peggy Mitchum mettait la carte et notes sur la table, près de la fenêtre, face à la montagne que la nuit allait bientôt engloutir. Après avoir longtemps hésité, elle glissa dans le dictaphone les micro-cassettes des vacations radio. Elles étaient numérotées, ce qui permettait de suivre l'escalade dans sa progression chronologique. Au début, Carpenter s'exprimait avec une aisance proche de la jactance, multipliant les plaisanteries, les jeux de mots. Toutefois, dès la quatrième cassette, le ton changeait, le souffle se faisait haletant. La voix trahissait la souffrance, l'inquiétude. Les jurons remplaçaient les boutades. Foutu-glace balbutiait le minuscule haut-parleur du magnétophone. J'ai perdu un temps fou, failli dévisser trois fois. Je me suis fait mal au genou gauche. Merde, la nuit va tomber. Je vais m'assurer pour dormir. Il fait très froid, 27 degrés en dessous de zéro. J'espère que la température ne va pas baisser davantage. Peggy consulta le descriptif de l'équipement emporté par Carpenter. Et il y était fait mention d'un pied d'éléphant et d'une tente isotherme à double paroi pour bivouac en altitude. Mais cela ne signifiait pas grand-chose. La tente avait pu se déchirer dans les rafales, être emportée par le vent, échapper aux mains engourdies de l'alpiniste. En montagne, les plus aguerris ne sont jamais à l'abri d'un accident stupide, d'un coup de malchance. Elle resta un moment assis près de la fenêtre à réécouter les dernières cassettes. Carpenter insistait sur le froid intense. La neige qui s'accumulait sur la tente. À un moment, il employait une image frappante. « Je suis comme un poussin pris au piège à l'intérieur de son œuf », criait-il pour dominer les hurlements du vent. Un poussin dont la coquille s'épaissirait d'heure en heure, devenant de plus en plus solide. Je ne sais même pas si, demain matin, je serais capable de m'extirper de ce sarcophage. » Ayant conscience de sombrer dans le mélodrame, il essayait alors de s'esclaffer. Mais son rire sonnait faux. La peur était déjà à l'œuvre, s'insinuant en lui. L'ultime message avait été émis à 2 heures du matin. La tempête le rendait incompréhensible. Peggy n'excluait pas le fait que Carpenter ait cédé à une crise de panique ou à un accès de claustrophobie. Cela arrivait aux plus endurcis. Nerveuse, elle éteignit l'appareil, fit monter un pot de café noir et se replongea dans l'étude des cartes. Ces dernières années, la chance lui avait ostensiblement tourné le dos. Le contenu de la mallette de billets récupérée au terme de l'affaire de la banquise avait été englouti par la faillite de l'entreprise de location de bateaux qu'elle avait tenté de mettre sur pied. Un associé peu scrupuleux, 2 accidents malheureux, un assureur véreux, avait fini par l'acculer au dépôt de bilan. Et cela même, alors que le projet aurait dû assurer sa richesse en moins de 3 ans. Aujourd'hui, elle se retrouvait à la case départ, brûlant ses dernières cartouches. Elle devait se résoudre à accepter la vérité. Elle n'avait aucun don pour les affaires. Fatiguée, elle décida de se coucher. Elle dormit d'un sommeil agité et rêva de Pharaon Carpenter. Dans son cauchemar, il se débattait comme un diable, prisonnier du cocon qu'une énorme araignée tissait autour de lui. Une araignée blanche qui se déplaçait à la verticale sur la paroi de granit, indifférente aux rafales de neige. À la fin, l'arachnide s'éloignait pour se perdre dans la tempête, abandonnant la boule duveteuse suspendue au-dessus du vide et que le vent faisait osciller à la manière d'un pendule. Le lendemain, elle s'éveilla en sachant qu'elle accepterait la proposition de Nora Farbrooks, même si l'aventure relevait de la folie. Elle imaginait mal ce qu'elle aurait pu faire d'autre. L'avocate ouvrit son élégante serviette de cuir d'autruche et lui demanda de signer un contrat qui comportait une clause de confidentialité et l'assurance que Peggy ne tenterait pas de monnayer le récit de son exploit sous quelque forme que ce fût. Elle s'engageait également à ne pas entamer de poursuites contre ses commanditaires si, à la suite d'un accident d'escalade, elle venait à contracter une infirmité définitive. « Bien, » fit Nora en examinant les documents. « Puisque tout est en ordre, je vais vous confier la clé du hangar où Carpenter entassait son matériel. Vous serez libre de choisir ce qui vous convient. » « Je devrais me débrouiller toute seule, c'est ça, » lança Peggy. « Inutile d'espérer le secours d'un assistant. » Nora haussa les épaules. « Libre à vous d'en engager un, ou plusieurs, lâcha-t-elle, pourvu que ce soit à vos frais et qu'ils tiennent leur langue. En ce qui me concerne, je ne suis pas autorisée à vous débloquer le moindre crédit. Cette histoire a déjà coûté trop cher à nos clients. Les grimpeurs qui vous ont précédés nous ont extorqué des sommes considérables sans obtenir le moindre résultat. » Une fois les papiers rangés dans la serviette, elle fit comprendre à Peggy qu'elle avait hâte de s'en retourner vers la civilisation et, pour ce faire, de se débarrasser de l'ultime corvée qui lui incombait encore. Elles quittèrent l'hôtel pour traverser la bourgade. Les ouvriers municipaux essayaient, tant bien que mal, de débarrasser les rues de l'espèce couche de neige tombée au cours de la nuit. La ville semblait engourdie, à moitié déserte. Peggy nota que de nombreux magasins étaient en cessation d'activité. Des planches clouées en croix en obturaient les vitrines. Avant la grande avalanche, c'était un endroit très vivant, murmura Nora. Beaucoup de vedettes du showbiz venaient y skier. Ensuite, après la catastrophe, ça s'est transformé en ville fantôme. Je crois que c'est justement ça qui excitait Carpenter. Il y avait quelque chose de morbide chez lui. Les morts ensevelis sous la neige, encore intacts après toutes ces années. Vous voyez le genre. Ça le faisait bander. Il voulait vaincre la montagne maudite, pisser à la face du monde du haut du sommet. Toutes ces conneries macho. S'il avait réussi, ça aurait consolidé son image d'entrepreneur intrépide. Ses actions auraient grimpé en flèche. Les journalistes auraient fait de lui un guerrier industriel. Ce n'était pas complètement idiot, je dois le reconnaître. Les actionnaires sont sensibles aux actions d'éclat. Elle se tut, car elle venait d'arriver au pied d'un hangar aveugle, aux tôles rouillées à demi ensevelies sous la neige. « Voilà, » annonça l'avocate, « c'est le vestiaire de Carpenter. Il est entassé là-dedans de quoi équiper une armée de grimpeurs. Vous n'aurez qu'à puiser à votre guise dans le fourniment. Bien sûr, ce matériel date d'une dizaine d'années, mais je pense qu'il est toujours en bon état. Carpenter n'achetait que du top quality. » Un énorme cadenas fermait le ventail. Nora Farbrooks tira de sa poche une clé qu'elle remit à Peggy. « Ok, » souffla-t-elle, « j'ai fait ma part du boulot. À vous maintenant. Vous connaissez la procédure. Dès que vous serez en possession d'une partie identifiable de la dépouille, prévenez-moi. Une équipe viendra aussitôt prendre livraison du... colis. » Elle se dandina un instant dans la neige sale avant de tourner les talons. « Elle est persuadée que je ne reviendrai pas, » songea Peggy. « Elle a dû répéter les mêmes phrases à tous ceux qui m'ont précédée. » Luttant contre l'angoisse, elle se dépêcha d'ouvrir le cadenas et de faire coulisser le ventail. Elle dut pour cela casser à coups de talon la neige durcie accumulée dans le rail. Le hangar ne comportait aucune fenêtre. Elle tâtonna pour localiser l'interrupteur. Enfin, des rampes lumineuses clignotèrent au plafond, éclairant des rangées d'étagères surchargées de matériel d'escalade. Cordes, harnais, crampons, piolets, vêtements chauds et chaussures, rien ne manquait. Il y avait là de quoi ouvrir un magasin. Hélas, elle dut vite déchanter. Les équipements étaient usagés, Les cordes vrillées, pelucheuses, avaient manifestement encaissé plus d'un choc et perdu en grande partie leur élasticité. En langage clair, cela signifiait qu'au prochain dévissage, elles casseraient net. Le reste s'avéra à l'avenant. La jeune fille jura entre ses dents. Elle se trouvait au milieu d'un formidable rebut, du matériel usé par de multiples courses et dont Carpenter avait négligé de se débarrasser. Elle allait devoir trier ce foutoir, tâter chaque corde centimètre par centimètre pour s'assurer qu'elle ne comportait aucune trace de cisaillement, un défaut courant avec les cordes en nylon. Beaucoup de grimpeurs les appréciaient parce qu'elles étaient imputrescibles et séchaient vite. N'empêche, elles encaissaient moins bien les frottements que les cordes classiques. Avec un soupir de résignation, elle s'attela à la tâche. Elle en aurait pour la journée et s'en sentait fatiguée par avance. Presque tous les rouleaux qu'elle ausculta étaient vrillés. Ils avaient à l'évidence dépassé la limite des 5 chutes réglementaires, ce qui laissait présager une course difficile semée d'embûches. Carpenter ayant été un alpiniste chevronné, il n'aurait pas dévissé aussi souvent sans raison. Après 3 heures d'examen fastidieux, elle isola 2 rouleaux de cordes d'attache de 11 mm et 3 cordes de rappel de 9 mm qui présentaient des garanties de sécurité acceptables. Se déplaçant au long des travées, elle entreprit de se fournir en coinceurs, poignées autobloquantes, étriers, pitons et crampons de toutes sortes. Elle examinait soigneusement chaque objet, écartant ceux qui lui paraissaient tordus, fatigués, gauchis. À plusieurs reprises, pendant qu'elle triait cette ferraille usagée, elle eut le sentiment d'une présence indéfinissable. Comme si le fantôme de Carpenter se tenait là, tapi derrière les rangées d'étagères métalliques, l'observant d'un air goguenard. Cette idée finit par s'imposer à son esprit avec une telle force qu'elle ne put s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. L'entrepôt, avec ses multiples coins d'ombre, se prêtait, il est vrai, à la fantasmagorie. Il y a quelqu'un, lança-t-elle d'un ton qu'elle espérait dissuasif. À force de scruter la pénombre, elle crut discerner des silhouettes en mouvement, se déplaçant avec malignité à la limite de son champ visuel. Carpenter, se surprit-elle à prononcer, c'est vous ? À la même seconde, elle pensa, bon sang, je suis en train de devenir ma boule. Elle décida qu'elle était victime d'un coup de fatigue et estima urgent d'aller se restaurer au délicatessen du coin de la rue. Elle se maudit toutefois de traverser le hangar d'un pas trop rapide, comme si elle fuyait cette ombre ricaneuse dont elle sentait toujours la présence dans sa nuque. Elle mangea des saucisses, des frites, des beignets pour faire provision de gras. Elle allait beaucoup maigrir au cours de l'escalade. Il n'est pas rare qu'un grimpeur confronté à une course difficile perde 10 kilos en l'espace de 2 ou 3 jours. Cet amaigrissement brutal génère parfois une fatigue insurmontable. Le froid n'arrange rien. Il favorise la torpeur, l'assoupissement. C'est ainsi qu'on meurt gelé, suspendu au bout d'une corde, sans même s'en apercevoir. « Ça fait plaisir de voir enfin une fille avec un bel appétit !» lui lança le vieux serveur. « Les gamines d'aujourd'hui, dès qu'elles ont grignoté une demi-feuille de salade, elles ont le ventre plein. Quelle misère !» Peggy s'attarda. La nourriture était bonne et abondante, le café excellent. Elle bavarda longuement avec le vieil homme, en ayant conscience de retarder par ce prétexte le moment où il lui faudrait regagner le hangar hanté. Engourdie par le repas, elle dut se faire violence pour repousser le ventail et reprendre son travail de sélection. Des images désagréables lui traversaient l'esprit. À plusieurs reprises, alors qu'elle était penchée sur l'établi, il lui sembla que Carpenter lui soufflait dans le cou. Elle le devinait là, tout près, quasiment palpable. « Si je me retourne maintenant, se dit-elle, je me cognerai à lui. Mon visage heurtera le sien, ma bouche rencontrera la sienne et elle sera froide, si froide !» Les doigts crispés sur le manche d'un piolet à l'ancienne, elle connut une seconde d'intense panique. Elle s'obligea à demeurer immobile. En refusant de regarder par-dessus son épaule, estimait-elle, elle priverait l'apparition de l'énergie nécessaire à sa matérialisation. Les spectres s'alimentent de la peur des humains, avait-elle lu quelque part. C'est la terreur des hommes qui leur permet de s'incarner. En niant l'existence de Carpenter, elle le condamnerait à se dissoudre dans le néant. Réalisant qu'elle ne supporterait plus très longtemps une telle tension, elle se dépêcha de rassembler son paquetage et quitta l'entrepôt. De retour à l'hôtel, elle passa au bureau des guides pour prendre le bulletin météo des prochains jours. On annonçait du soleil. C'était tout à la fois bon et mauvais. La grimpe sur rocher en serait facilitée, mais la chaleur aurait tendance à faire fondre la glace. Peggy monta dans sa chambre, accrocha le panneau ne pas déranger à la poignée et avala un somnifère. Il lui fallait faire provision de sommeil. Dès qu'elle fut couchée, elle rêva que Carpenter se glissait dans le lit. Il était glacé. Sa chair pétrifiée irradiait un froid sibérien. « Je t'attends là-haut, chérie, » lui murmurait-il à l'oreille. « Il y a si longtemps que je suis tout seul, suspendu à mon surplomb. Tu vas me tenir compagnie. Tu seras ma petite fiancée. On va très bien s'entendre tous les deux. Mourir gelé, c'est le pied pour une femme. Imagine un peu, tu vas cesser de vieillir. Dans 30 ans, tu seras encore jeune. Ça vaut toutes les crèmes anti-rides, non ?» Peggy attendit encore une semaine avant de se lancer dans l'aventure. Elle passait beaucoup de temps à scruter à la jumelle les flancs de la montagne, à étudier les photographies aériennes des parois. « Les problèmes commencent, » lui déclara l'un des guides du Visitor Center, « dès qu'on pénètre sur le territoire des glaces. La température chute d'un coup et de façon vertigineuse. On peut même éprouver de sérieuses difficultés respiratoires, comme si l'oxygène se raréfiait. C'est dû au vent d'altitude. Il souffle parfois si fort qu'ils installent l'hiver polaire en 5 minutes. À votre place, je ne sortirai pas du rocher. » Peggy faisait 2 heures d'assouplissement par jour. Elle continuait par 2 autres heures de jogging. Le reste du temps, elle enchaînait des exercices de musculation des bras et des cuisses, mangeait et dormait. Sa forme physique avait toujours été exceptionnelle, mais elle entrait désormais dans ce que les femmes surnomment avec pudeur la petite quarantaine. Mince, d'une souplesse confinant au surnaturel, elle possédait des atouts incontestables en matière d'escalade, mais elle manquait d'expérience. Elle n'avait jamais dépassé le niveau 5, très difficile, où l'on ne peut descendre qu'en rappel. Elle avait brièvement tâté du 6, extrêmement difficile, mais jamais du 7, domaine de l'impossible réservé au surhomme et qui nécessite une force titanesque. En compulsant la documentation que Nora avait réunie sur Carpenter, elle avait appris que l'homme d'affaires était un habitué du 6e degré et qu'il avait par 2 fois ébauché des courses de 7e niveau au Pérou. Ce n'était donc pas un grimpeur du dimanche, et s'il s'était attaqué à Falling Rocks, c'est parce qu'il y voyait un défi susceptible de le faire progresser dans l'art difficile de l'escalade. Chaque fois qu'au cours d'une de ses séances de jogging elle traversait la vallée, elle surprenait le regard goguenard des hommes fixés sur elle. Les gens de l'hôtel avaient bavardé. On savait qu'elle s'entraînait en vue d'aller décrocher le mort, comme on disait ici. Pour beaucoup d'entre eux, elle ne reviendrait pas. Ils étaient prêts à parier leur dernier dollar là-dessus. Des types autrement costauds avaient été avalés par la montagne. Cette petite poupée, aux cheveux rouges et blonds, ressemblant vaguement à Sharon Stone, flancherait dès qu'elle poserait le pied sur le territoire de glace. C'était couru d'avance. À la fin de la semaine, son corps était dur et noueux, ses articulations d'une souplesse caoutchouteuse. Toutes les nuits, elle avait rêvé de Carpenter. Chaque fois qu'elle se rendait au garage pour préparer son paquetage, elle sentait sa présence entre les rayonnages. Elle ne se retournait plus. Il ne lui ferait aucun mal tant qu'elle resterait au sol. L'affrontement aurait lieu là-haut. Le soir du 8e jour, elle entassa l'équipement dans la Range Rover, puis passa un coup de fil à Nora Fairbrooks pour la prévenir qu'elle tenterait l'aventure le lendemain matin, puisque la météo s'annonçait optimiste pour les 72 heures à venir. Elle but un verre de gin pour se détendre et se coucha dès la tombée du jour, des boules tièses dans les oreilles. À 6 heures, elle se leva, prit un déjeuner énergétique, paya la note et grimpa dans sa voiture. Les employés de l'hôtel la regardèrent s'éloigner en direction du sommet, persuadés qu'ils pourraient bientôt déclarer « Nous sommes les derniers à l'avoir vue vivante. Une si jolie fille, quel gâchis !» La météo ne s'était pas trompée, il faisait beau. Le ciel était dégagé, d'un bleu azuréen, sauf au sommet bien sûr, qui demeurait coiffé du fameux chapeau de brouillard ayant fait sa célébrité. Peggy déchargea la rover, assujettit le paquetage sur ses épaules et boucla son harnais. La paroi jaillissait de la neige devant son nez, presque verticale d'emblée. Pour l'heure, le granit était propre. La chaleur des derniers jours l'avait séché. La jeune fille s'assura que le harnachement n'entravait pas sa liberté de mouvement, fit quelques exercices respiratoires et posa le pied sur le rocher. La course commençait. Au cours des 2 heures qui suivirent, elle n'eut à déplorer aucune mauvaise surprise. Il s'agissait d'une grimpe ardue mais franche, sans sournoiserie. La pierre avait une consistance solide et saine, elle ne s'émiettait pas. Au bout de 3 heures, Peggy décida de s'accorder une pause. Elle s'auto-assura, déploya ses étriers et s'offrit une demi-heure de repos en prenant soin toutefois de continuer à remuer les jambes afin que ses muscles restent chauds. Plus elle se rapprochait du sommet, plus la luminosité baissait. Le brouillard l'enveloppait désormais, tombant sur ses épaules en gouttelettes glacées. Dès qu'elle s'engagea dans la crasse, la température chuta et le vent forcit. Il semblait mener une sarabande infernale autour de la montagne, tourbillonnant à la façon d'un maelstrom. Peggy sentit le froid pénétrer sa chair et ses os, durcir ses fibres musculaires. Elle se dépêcha de se remettre en mouvement avant que sa sueur ne se change en cristaux de givre. Par grand froid, une simple chemise trempée pouvait devenir aussi rigide qu'une camisole de cuir, vous blessant aux entournures. Soudain, le versant s'inclina à 45 degrés. La pierre disparut pour faire place à une étendue de glace dure que le piolet avait le plus grand mal à entamer. Peggy chaussa ses crampons, des 12 pointes, qui lui donnaient l'impression d'être perchée sur des échasses. Usant de la technique du piolet ancre, elle entreprit d'escalader la plaque vitrifiée qui s'étendait devant elle. Elle avançait prudemment, sachant que la glace n'est pas un matériau homogène et que des zones d'une extrême dureté côtoient des secteurs pourrissants aux cristaux déliquescents dans lesquels le pied s'enfonce soudain jusqu'à la cheville. À partir de cet instant, elle commença vraiment à souffrir. En dépit des efforts déployés, elle ne pouvait s'empêcher de claquer des dents. Le vent semblait décidé à la rejeter dans le vide. La bourrasque s'opposait à son intrusion et elle devait l'affronter de face, le visage gelé, bombardé d'esquilles de glace, les mains crispées sur le manche du piolet. Peggy dévissa à 3 reprises. Par bonheur, les points d'auto-assurance encaissèrent le choc sans s'arracher de leur logement. Chaque fois, elle eut le réflexe de relever les jambes, de manière que ses crampons n'entrent pas en contact avec le sol. C'était la seule chose à faire si l'on ne voulait pas se retrouver en train d'exécuter des bonds effrayants à chaque nouvel impact. Elle se rappela ce que lui avait dit l'homme qui l'avait initiée à la grimpe, un glaciériste de haut niveau. Planter ses crampons dans la paroi au cours d'une glissade, c'est comme de serrer brusquement les freins d'un vélo lancé à toute allure sur une pente raide. On décolle du sol pour partir en vol plané. Chaque fois, elle réussit à s'immobiliser en se couchant sur son piolet et en le fichant dans le sol, mais il lui fallait ensuite regagner le terrain perdu. Après 2 heures de ce régime, elle réalisa qu'elle arrivait à la limite de ses forces. La glace était 100 fois pire que le rocher. On eût dit un système de défense naturelle mis en place pour interdire l'accès au sommet. Elle était fuyante, traîtresse, tantôt cristal, tantôt pourriture. À certains endroits, aucun piton ne restait en place. La moindre traction les arrachait de leur logement. Peggy comprit qu'elle n'irait pas plus haut aujourd'hui. Les heures avaient filé et la luminosité baissait dangereusement. Elle ne devait pas se laisser surprendre par la nuit à flanc de paroi. Il lui fallait trouver une niche, une crevasse ou dresser un campement. Elle consacra ses dernières forces à localiser l'endroit idéal. Elle finit par dénicher une étroite corniche et s'y hissa. La consistance de la glace lui parut satisfaisante. Aussi entreprit-elle de s'assurer, puis, déployant la petite tente isotherme à double paroi, s'en enveloppa comme d'un manteau trop ample. Pour le moment, échauffée par l'effort, elle ne souffrait pas du froid. Cela viendrait, dès que sa chaleur de récupération serait consommée. Alors la sueur gèlerait sur sa peau, ses vêtements lui feraient l'effet d'avoir été taillés dans un morceau de bois. Elle n'avait plus le courage de bouger. Pour un peu, elle aurait fermé les yeux pour s'abandonner au néant avec délice. C'était l'erreur à ne pas commettre. Elle se débarrassa de ses crampons et se glissa à l'intérieur du pied d'éléphant dont elle s'était munie. Surtout ne pas céder à la tentation d'ôter ses chaussures. Le vent s'acharnait sur la tente, la malmenant tel un vulgaire sac poubelle. La jeune femme se saisit de la bouteille thermos pour avaler un peu de soupe chaude. Elle tremblait, d'épuisement et d'angoisse. Elle avait toujours eu horreur de dormir en altitude, accrochée à la paroi à la merci des bourrasques. Elle s'efforça au calme. Dans un moment, la neige se mettrait à tomber, recouvrant la tente, la transformant en igloo. Dès lors, il y régnerait une chaleur acceptable. Le tout était de ne pas céder à la panique. Elle grignota deux barres énergétiques, but une gorgée de kirsch pour se calmer et ferma les yeux. Au moindre craquement, elle se dressait sur un coude, persuadée que la corniche s'effondrait. Elle demeura ensuite aux aguets une heure durant, les poings crispés sur la corde qui l'empêcherait d'être avalée par le vide. Entre deux alertes, elle dormait d'un sommeil peuplé de mauvais rêves. Dans l'un d'eux, Carpenter se promenait autour de la tente, l'effleurant de ses doigts morts. « Tu es emballée dans un sacré paquet cadeau, ma jolie, » ricanait-il. « Il ne fallait pas te donner tant de peine. Demain, je dénouerai tout ça pour te prendre dans mes bras, ma petite femme. Ah, comme j'ai hâte de te serrer contre moi, si tu savais. » Elle s'éveilla aux premières lueurs de l'aube. Quand elle voulut se redresser, les crampes lui arrachèrent un cri de douleur. Elle dut se résoudre à avaler un comprimé analgésique. La neige recouvrant la tente pesait sur elle, lui donnant l'illusion d'être enterrée vivante dans un linceul de nylon. Les dents serrées, elle fit coulisser la fermeture à glissière de l'abri. Lançant une main à l'extérieur, elle ramassa quelques poignées de poudreuse qu'elle entassa dans une gamelle de réchaud afin de faire du thé. Il importait qu'elle avalât quelque chose de chaud avant de reprendre la course. Puisant dans les sachets de nourriture déshydratée, elle improvisa une soupe salée afin d'éviter la déshydratation excessive. On lui avait appris qu'il ne faut jamais sucer de neige lorsqu'on a soif, car cela dessèche la bouche et décuple le besoin de boire. La neige ne doit être absorbée qu'à l'état liquide. Se surprenant à chercher autour de la tente les traces de pas qu'aurait pu laisser Carpenter, elle se traita d'idiote. Carpenter était mort. Il était probablement aussi dur que le granit de la paroi contre laquelle il se balançait depuis 10 ans. Le matériel une fois rangé, elle se remit en mouvement. La neige permettait de tailler des marches en bénitier dans lesquelles elle pouvait aisément loger le pied. Toutefois, son euphorie fut de courte durée car elle repéra des coulées annonciatrices d'avalanches. C'était là le grand danger de Falling Rocks. La plaque de poudreuse avait tendance à se décrocher d'un coup, lançant des tonnes de neige dans le vide. La dernière avalanche, celle qui avait détruit la station, avait été chronométrée à 350 km/h. Peggy grimpa une heure, puis fit le point à l'aide du GPS. Elle fut soulagée de voir qu'elle n'avait pas dévié de sa route. Si elle continuait à ce rythme, elle atteindrait la sépulture de Carpenter dans 2 heures. Autour d'elle, le brouillard gagnait en intensité. Il charriait des particules de givre qui lui piquetaient les pommettes. « Je vais y arriver, » commença-t-elle à se répéter. « Ce n'est pas si dur que je le croyais. Je vais y arriver. » C'est alors que les choses se gâtèrent. En 3 minutes, la température chuta à moins 30 degrés. Chaque fois qu'elle inspirait, Peggy avait l'illusion que ses poumons prenaient feu. Si cela continuait, il lui deviendrait impossible de toucher le métal à main nue sans y rester collé. Le phénomène avait quelque chose de surnaturel. La neige gelait. Marchant sur les traces de Carpenter, Peggy était en train de tomber dans le même piège que lui. L'homme d'affaires s'était laissé surprendre. Jamais il n'avait envisagé qu'un tel froid pouvait s'installer en un laps de temps aussi court. Il avait refusé de prendre au sérieux les conseils des gens de la vallée, considérant qu'il s'agissait là de légendes locales, de fadaises destinées à épouvanter les touristes. Quelle erreur! À présent, Peggy souffrait réellement. Ses vêtements n'offraient pas une protection suffisante contre le blizzard. Elle claquait des dents, les larmes gelaient sur ses joues. C'est à peine si elle y voyait encore. À la fin, n'y tenant plus, Persuadée qu'elle allait dévisser d'une seconde à l'autre, elle se recroquevilla dans une fissure et s'assura sommairement au moyen d'un coinceur. Le froid lui avait ôté toute énergie. Consultant le GPS, elle s'aperçut qu'elle se trouvait à un jet de pierre de l'endroit où l'attendait Carpenter. L'épuisement lui emplissait l'esprit d'idées folles. À plusieurs reprises, elle crut voir une ombre ramper au long de la paroi, telle une gigantesque araignée. Une ombre qui se dirigeait vers elle. Instinctivement, elle recula à l'intérieur de la fissure. C'est alors que sa main se posa sur un visage. Un visage dur comme la pierre. Elle poussa un hurlement. Le cadavre occupait le fond de la niche, recroquevillé en chien de fusil. Elle supposa qu'il s'agissait de l'un des grimpeurs l'ayant précédé. Comme elle, il avait cherché refuge dans la faille. L'épuisement, le sommeil et le froid avaient fait le reste. Une mince couche de glace le recouvrait, lui donnant l'apparence d'une statue de verre. Cette rencontre, loin de désespérer la jeune fille, agitait un électrochoc et provoqua en elle une poussée d'adrénaline qui réveilla son désir de vivre. Non, elle n'allait pas se laisser piéger. Dès la fin de la tempête, elle irait récupérer la dépouille de Carpenter et redescendrait à une altitude plus clémente. Elle déplia la tente isotherme et s'y calfeutra. Là, à 50 cm du cadavre pétrifié, elle se fit du thé et se força à manger. Elle ne devait surtout pas se refroidir. Quand elle eut absorbé la nourriture, elle chanta à plein poumon. Technique bien connue des alpinistes pour combattre les effets du froid. La tempête dura 3 heures. Quand le vent cessa enfin, Peggy était emmurée à l'intérieur de la faille qu'elle dut déboucher à coups de piolet. Le thermomètre lui apprit que la température était remontée à moins 20 degrés. « Presque l'été », grommela-t-elle en émergeant de sa cachette. Elle s'orienta, puis alluma le récepteur de balise dans l'espoir d'accrocher le signal émis par Carpenter. Hélas, en l'absence de tout rayon de soleil, l'émetteur ne daigna pas sortir de sa torpeur. Cédant du GPS, Peggy reprit sa progression sur la muraille de glace. Un peu plus haut, elle découvrit un nouveau cadavre. Disloqué par une chute mortelle, bras et jambes repliés en des angles impossibles. Il ne s'agissait pas de Carpenter. Le mort, pétrifié par le gel, avait quelque chose d'une sculpture moderne. On eût dit un mannequin prisonnier d'une inclusion de résine translucide. Peggy estima qu'il avait dû être heurté par un bloc de glace dégringolant des hauteurs. Peut-être un sérac fragilisé par la chaleur du soleil et qui avait glissé sur la pente avec la puissance d'un camion lancé à pleine vitesse. Elle ne s'attarda pas. Elle voulait en finir. La rage l'habitait, guidant ses gestes. Sans en avoir conscience, elle marmonnait des injures, des obscénités. C'était comme de se déplacer sur du verre. Seule une mouche géante aurait pu parvenir au sommet. Elle avait de plus en plus de mal à planter ses pitons. Enfin, elle le vit. Carpenter, suspendu à la verticale contre la paroi. 10 ans de gel l'avaient emprisonné au sein d'un bloc de glace qui le retenait prisonnier comme l'aurait fait une vitrine. Quand elle se rapprocha de lui, elle constata qu'il ne faisait plus qu'un avec la montagne. Tels ces insectes emprisonnés dans une coulée de résine, destinés au fil des siècles à devenir blocs d'ambre. Pharaon Carpenter avait été englouti par les couches de gel successives. Peggy jura. Pour l'extraire de sa gangue, elle allait devoir piocher pendant des heures. Elle n'aimait guère la perspective de se livrer à des travaux de terrassement au beau milieu d'un couloir d'avalanche. Les ondes de choc créées par le piolet ne manqueraient pas de se propager aux alentours, de remonter jusqu'au sommet. Indécise, elle approcha son visage du bloc. La tente isotherme de l'homme d'affaires semblait s'être déchirée. De toute évidence, il avait succombé au froid. Accroché au harnais, on distinguait le boîtier jaune de la balise avec son capteur solaire. Peggy s'assura du mieux possible et se mit au travail, usant de son piolet pour fragmenter la glace à la hauteur du visage aux yeux clos. Elle ne se faisait aucune illusion. Elle ne pourrait ramener le corps. D'abord parce qu'elle était trop fatiguée, ensuite, parce qu'elle jugeait plus prudent d'abréger les travaux. Nora Farbrooks avait vu juste. Elle allait devoir prélever la tête de Carpenter. Elle se demanda si la scie qu'elle avait emportée serait capable d'entamer la chair pétrifiée par le froid. Manier le piolet la réchauffa. Les éclats de glace ricochaient sur son front et ses joues. De temps à autre, elle s'interrompait et levait les yeux pour vérifier que rien ne bougeait au-dessus d'elle. Il lui fallut plus d'une heure pour dégager la tête de Carpenter. Le cadavre avait la peau bleue. La consistance de sa chair rappelait celle du granit. Les mains tremblantes, Peggy tira la scie de son paquetage et se mit à l'ouvrage. « C'est comme si je sciais une statue », se répétait-elle pour minimiser l'horreur de son acte. Comme il fallait s'y attendre, la lame se brisa alors qu'elle n'avait encore accompli que la moitié de la besogne. Elle dut en changer. À présent, elle ruisselait de sueur. Si elle se laissait surprendre par une nouvelle chute de température, c'était un coup à crever de froid. Elle reprit son travail avec obstination, essayant de ne pas prêter attention au crissement de la lame sur la chair pétrifiée. Un crissement lancinant qui s'envolait vers la cime et dont les vibrations se répandaient dans la glace, courant de cristaux en cristaux. Quand le cou fut tranché, elle glissa la tête dans un sac de toile qu'elle suspendit à sa ceinture. Il ne lui restait plus qu'à rebrousser chemin. Elle espérait en avoir la force. En haute montagne, il est parfois aussi épuisant de descendre que de monter, surtout lorsque l'on doit se déplacer sur la neige en utilisant la technique du piolet ramasse. Comme le vent se levait, elle décida de rebrousser chemin sans prendre le temps de se reposer. Elle ne voulait pas se laisser surprendre à cette hauteur par une nouvelle chute du thermomètre. La hâte la rendait fébrile et imprudente. Elle prit conscience qu'elle fuyait la colère de Carpenter, comme si le cadavre décapité allait laisser éclater sa fureur en déclenchant une avalanche. À sa place, songea-t-elle, je détesterais qu'on abandonne mon corps dans cet état incomplet. Quand on est coupé en deux, il est probablement impossible de trouver le repos. Elle avait conscience de déraisonner, mais ne pouvait s'en empêcher. La peur grandissait en elle. Une peur absurde, superstitieuse, qui s'alimentait de sa fatigue nerveuse. De plus en plus fréquemment, elle levait les yeux vers le sommet pour s'assurer que le corps sans tête de l'homme d'affaires ne s'était pas lancé à sa poursuite. Sur un faux mouvement, elle dévissa et dévala 40 mètres de pente sur le ventre. Les heures qui suivirent furent un long calvaire. Ayant dépassé sa limite de résistance, elle commettait erreur sur erreur. Seule la chance lui évita de plonger dans l'abîme. Quand elle émergea enfin de la zone neigeuse, elle s'accorda une halte dans une fissure du rocher. Là, elle prit le temps de se restaurer. Tout son corps lui faisait mal. Ses mains saignaient. Elle s'était arraché 2 ongles, ce qui affaiblissait ses prises. Elle essayait de ne pas penser qu'à l'intérieur du sac de toile battant sa hanche, la tête de Carpenter avait commencé à décongeler. Ses yeux s'étaient-ils ouverts? Elle était dans un tel état de délabrement nerveux qu'elle n'aurait pas été autrement surprise si la voix de l'homme d'affaires s'était soudain élevée pour l'accabler d'injures. Le soleil lui fit du bien. Elle aurait dû prendre le temps de se reposer, mais elle était obsédée par l'idée que la tête coupée allait pourrir en accéléré. Ou bien déchiqueter le fond du sac avec les dents pour s'échapper. « J'aurais fait tout ça pour rien, » se disait-elle, « pour rien. » La seconde d'après, elle essayait de se rassurer en se répétant que la pourriture n'avait que peu d'importance, puisqu'il serait toujours possible d'effectuer une analyse ADN. Lorsque le sol se rapprocha, elle sortit son téléphone cellulaire et forma le numéro de Nora. « Je l'ai, » annonça-t-elle, « venez le récupérer. Il me sera difficile de demander aux gens de l'hôtel de le ranger dans le frigo des cuisines. » « J'arrive, » répondit l'avocate. « Félicitations !» L'accident se produisit à 50 mètres du sol. Par la suite, chaque fois qu'elle y repensa, Peggy ne put déterminer s'il résultait d'une erreur de sa part ou d'une défaillance du matériel soumis à trop rude épreuve. Quoi qu'il en soit, elle dévissa. La corde qui aurait dû freiner sa chute se rompit. La jeune femme se sentit partir en tourbillon dans le vide. Par chance, elle heurta un surplomb et s'y fracassa les 2 jambes, le bassin ainsi que plusieurs côtes. Juste avant de perdre connaissance, elle crut entreapercevoir une silhouette se déplaçant à flanc de paroi. une silhouette décapitée. Elle comprit qu'il s'agissait de Carpenter, il avait tranché la corde. À présent, il venait récupérer sa tête.